Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que tout se passe bien. De notre côté, Mathieu Tessier à la régie et moi-même, ça se passe très bien. Déjà, on a le fou rire. C'est important de rire. Ça aussi, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, pour la toute première fois, on vous présente le chroniqueur Miguel Doucet, que vous avez peut-être déjà entendu ici sur nos ondes à Canal M. Miguel sera là pour nous présenter une revue de presse, La santé dans le monde, où l'on a eu envie ensemble de prendre le pouls des initiatives internationales en santé, en sciences également. Question peut-être de nous inspirer un petit peu ici. Aussi, vous dire que c'est la semaine de sensibilisation aux maladies mentales jusqu'au 10 octobre. Et pour moi, c'est important de vous parler d'une réalité dont on parle encore très peu, la santé mentale des personnes âgées. On en parle très peu pour différentes raisons, peut-être d'une part parce que c'est encore tabou. On a du mal à se dire qu'une personne âgée peut être dépressive, peut avoir des idées suicidaires, peut aussi avoir un problème de dépendance, de toxicomanie. Et pourtant, les chiffres sont extrêmement révélateurs d'après l'Organisation mondiale de la santé. C'est des chiffres récents, donc l'OMS, qui affirme qu'environ 15 % des adultes âgés de 60 ans et plus souffrent d'un trouble mental. C'est beaucoup et c'est complexe aussi comme enjeu parce que lorsque l'on parle de la santé mentale d'une personne âgée, il y a beaucoup de choses à considérer, à analyser. Entre autres choses, sa santé qui peut déjà être fragilisée, les médicaments qu'elle prend déjà ou encore son passé, c'est important. Tout ça d'évaluer, à évaluer. Docteur Marie-Andrée Bruno, elle, va tenter pour nous aujourd'hui de démystifier tout ça. Elle est gérontopsychiatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et également professeure agrégée au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Docteur Marie-Andrée Bruno, bonjour.
Oui, bonjour.
D'après l'Organisation mondiale de la santé, la population mondiale vieillit assez rapidement. Ça, on le savait. On nous dit aussi que de 2015 à 2050, la proportion de personnes de plus de 60 ans va pratiquement doubler, passer de 12 % à 22 %. J'imagine que les besoins en gérontopsychiatrie vont également augmenter et se modifier. Est-ce que vous observez cela?
Bien, c'est évident qu'avec l'augmentation en nombre des personnes âgées vient avec une augmentation de la prévalence des problèmes de santé mentale associés à cet âge-là. Puis aussi, on les dépiste ou on les diagnostique peut-être plus fréquemment qu'auparavant parce qu'au début du siècle, c'était pas nécessairement courant de parler de ce genre de problème. Donc, c'est sûr que bon, la pratique comme telle de gérontopsychiatrie existe depuis les débuts de la psychiatrie. Ça a été reconnu comme sous-spécialité d'abord aux États-Unis. Et ici, en fait, le Collège royal le reconnaît, la sous-spécialité, depuis 2009 seulement. Et on a eu les premiers gérontopsychiatres certifiés en 2013. Donc, c'est tout récent qu'on a ce type de pratique spécialisée au Québec. Et à l'Université de Montréal, où je dirige donc la division, on a eu le premier programme de sous-spécialité au Québec en 2014.
Donc, assez récent. Et ce que je réfléchissais à ça tout à l'heure, Dr Bruno, c'est que de plus en plus, c'est la bonne nouvelle, hein, de plus en plus, on parle de santé mentale. Et bon, ça contribue à amenuiser les tabous, mais la santé mentale des personnes âgées, ça, c'est peut-être un petit peu moins fréquent. En fait, je pense qu'il est difficile de concevoir que des pensées suicidaires, de la dépression, de la toxicomanie peut être associée au processus de vieillissement.
Sauf qu'on sait que, entre autres, dans les groupes les plus à risque de suicide, les hommes âgés qui ont des maladies chroniques, qui ont eu des deuils récents, sont une clientèle particulièrement à risque. Et en fait, dans le fond, ce que la gérontopsychiatrie, les clientèles dont elle s'occupe principalement, c'est bien sûr des patients qui ont eu des maladies psychiatriques chroniques et qui vieillissent et qui donc développent des problèmes médicaux, de la polypharmacie qui rend complexe le suivi, mais aussi et surtout des nouveaux épisodes psychiatriques à l'âge avancé. Donc la dépression, un premier épisode dépressif à l'âge avancé, souvent il faut suivre ça parce que ça peut être un prodrome syndrome d'une démence ou d'une mm-hmm. maladie dégénérative qui survient. Donc, c'est souvent des présentations atypiques avec beaucoup de comorbidités médicales. Et donc, les gérontopsychiatres doivent faire la part des choses entre qu'est-ce qui est de l'ordre d'une pathologie physique, qu'est-ce qui est de l'ordre d'une polypharmacie qui cause des effets secondaires, c'est quoi l'interface avec une maladie dégénérative qui arrive, mm-hmm. et de dépister aussi les profils atypiques. Et on s'occupe aussi, le troisième groupe, c'est les patients qui ont une maladie dégénérative et qui ont de façon assez prévalente des symptômes neuropsychiatriques associés.
Donc, si je vous entends bien, c'est que parfois, les soucis de santé mentale peuvent annoncer une autre maladie chez la personne âgée.
Tout à fait. Souvent, là, comme je le disais, ce qui est le plus associé, par exemple, avec la maladie d'Alzheimer, un premier épisode, après 65 ans de dépression majeure, il faut suivre ça dans le temps parce que souvent, là, ça va signer un processus dégénératif qui s'installe ou en lien avec des maladies vasculaires cérébrales mm-hmm. ou d'autres maladies comme le Parkinson. Mm-hmm. Donc, il y a une grande interface.
Mais est-ce que le diagnostic devient plus ardu parce que souvent les symptômes physiques vont être associés au processus de vieillissement que l'on pense régulier, mais peuvent témoigner comme par exemple des changements d'humeur ou des troubles de mémoire, de concentration, un problème de santé mentale?
Bien, c'est pour ça que la sur-spécialité existe. Mm-hmm. C'est là le créneau d'expertise, c'est-à-dire d'être capable de démêler un peu tout ça, de démêler ce qui est de l'ordre de quelqu'un qui a déjà eu une fragilité psychiatrique, donc par exemple les troubles anxieux qui étaient souvent mm-hmm. pas diagnostiqués dans cette cohorte-là quand ils étaient plus jeunes et que là, bon, quand ils ont par exemple une entrée en démence, peuvent réexacerber leurs problèmes d'anxiété qui n'avaient pas été diagnostiqués. De partager, comme je le disais, l'effet d'une maladie physique qui peut donner des présentations psychiatriques, l'effet des médicaments, les interactions, etc. Donc, c'est là tout l'intérêt de,
oui, mais oui.
de la sur-spécialité.
Et, bon, lorsque on prend de l'âge, donc les personnes aînées sont peut-être plus touchées par la douleur chronique, les maladies mmh. chroniques, les deuils, la solitude. Donc, oui. ça aussi, ce sont des facteurs, j'imagine, à évaluer et à prendre en compte.
Oui, c'est évident que on essaie d'avoir une approche globale, c'est-à-dire que dans le fond, les problèmes de santé mentale sont influencés. Oui, je parle beaucoup de maladies dégénératives par des changements biologiques là, dans le cerveau, mais c'est évident que tous les processus psychosociaux, les deuils, les pertes, s'habituent à un changement de rôle hein, quand on perd de l'autonomie. Tout ça vient fragiliser des fois la personne âgée qui peut avoir des difficultés à s'adapter à tous ces stresseurs-là. Et donc, la solitude aussi hein, dans notre ouais. société, le réseau, le tissu social est quelquefois fragilisé à l'âge avancé. Donc, ça aussi, c'est un des enjeux auxquels on fait face.
Docteur Bruno, est-ce que l'approche est différente avec une personne plus âgée, l'approche en psychiatrie?
C'est sûr qu'on a une approche qui est très interdisciplinaire. Donc, on travaille beaucoup en équipe, soit avec la première ligne, donc les gens qui vont à domicile, les travailleurs sociaux, les infirmières, les médecins de première ligne, à essayer de faire de la formation, mais aussi à être présent là, pour faire des suivis conjoints. Toutes les professions associées aussi qui nous permettent d'évaluer l'autonomie fonctionnelle, la neuropsychologie pour les facultés cognitives, etc. Et c'est sûr que c'est souvent aussi des évaluations, des interventions qui se font de pair avec la famille ou avec les proches aidants parce que c'est souvent les premiers à subir une perte de qualité mm-hmm. de vie là, en lien avec les problèmes de santé mentale de leurs proches et à être les premiers intervenants, malheureusement, à défaut d'un système qui peut pallier complètement à tous ces besoins-là. Et bien sûr, bien, comme je disais, l'approche est différente parce qu'on doit départager qu'est-ce qui est médical, qu'est-ce qui est médicamenteux,
ouais.
qu'est-ce qui est bon.
Et ça, on va y revenir. Je me disais aussi, et je vous le disais tout à l'heure, on en parle de plus en plus de santé mentale, beaucoup plus qu'il y a 50, 40 ans. Pour quelqu'un qui a vécu différents épisodes de troubles mentaux dans son passé, c'est une chose, mais pour quelqu'un pour qui ça serait nouveau, ça doit être difficile aussi à expliquer de dire, monsieur, madame, ben, vous avez cet âge-là et ben, vous avez un trouble de santé mentale, mais pour la personne à qui ce n'est jamais arrivé, ça peut être difficile d'accepter, j'imagine.
Oui, mais ça dépend un peu de l'histoire de chacun, là. Mm-hmm. Souvent, moi, ce que je trouve intéressant dans ma clinique, c'est de refaire vraiment tout le parcours de vie de la personne avec les souvenirs d'un proche aussi, ouais. là, qui a un regard extérieur, pour voir justement est-ce qu'il y avait une fragilité au niveau de la santé mentale au long cours qui n'a pas été pris en charge, c'était quoi les mécanismes d'adaptation de cette personne-là au stress, ses traits de personnalité, puis c'est quoi ses événements de vie marquants, puis dans le fond, tout ça rend cohérent un peu la présentation à l'âge avancé aussi. Donc, des patients qui font des dépressions, qui sont anxieux ou même qui ont des démences avec des troubles de comportement, ben ça nous donne un éclairage sur le comportement qui surgit. Et donc, le problème aussi par rapport à s'adapter à un diagnostic de santé mentale, c'est que entre autres dans les maladies dégénératives, souvent les gens n'ont pas conscience nécessairement qu'ils sont atteints, qu'ils ont des pertes de mémoire. Alors là, il faut un peu travailler à construire un filet de sécurité là autour d'eux pour ménager les risques à domicile. Et pour les autres, ben il y a quand même une certaine conscience d'une difficulté. Puis en général, ils vont être soulagés de pouvoir avoir une intervention qui va améliorer leur bien-être.
Mm-hmm. Docteur Bruno, tout à l'heure, vous parliez d'une difficulté à laquelle je pense vous êtes confrontée, celle de la polypharmacie. C'est quoi ça?
Oui. Ben, on sait que les personnes âgées se voient prescrire beaucoup de médicaments. Mmh. Et ça peut souvent être plus problématique qu'autre chose. Quand on regarde les statistiques, là, plus on ajoute de médicaments, plus on est à risque d'avoir des interactions, des effets secondaires. Et malheureusement, quand on est dans un système de soins fragmenté où on n'a pas accès à un médecin de famille qui peut voir la globalité des problématiques, ben on se retrouve avec des prescriptions pour contrer les effets secondaires d'une première prescription. Fait que là, on est dans la cascade des prescriptions. Alors, c'est pas rare de recevoir des patients qui ont 10, 15 médicaments et plus, des fois, à prendre. Et je dirais que en gérontopsychiatrie, une des premières choses qu'on fait, c'est du ménage dans la médication plutôt que d'en rajouter. On essaie d'enlever ce qui est inapproprié et de donner dans le fond des prescriptions qui sont justifiées, qui causent le moins d'effets secondaires en tenant compte des changements de métabolisme de la personne âgée, etc. Mmh.
Et j'imagine que tout ça modifie les traitements ou les thérapies que vous allez employer.
Ben effectivement, on sait que chez la personne âgée, on va utiliser des plus petites doses. Il faut évidemment faire un suivi des effets secondaires, reviser la prescription s'il y a apparition d'effets secondaires. Il faut s'assurer aussi que c'est compatible avec les problèmes de santé physique de la personne, avec les autres médicaments qu'elle prend, etc. Donc, ça élimine pas le besoin des fois de donner une prescription pour des indications précises. Un patient qui est en dépression majeure sévère, on va quand même lui donner un antidépresseur. On va choisir les molécules les moins avec le moins d'interactions et avec le moins d'effets secondaires possibles. Mais c'est sûr que quand on regarde ça, on voit une augmentation des prescriptions de psychotropes aussi chez les personnes âgées, les antidépresseurs, mais les antipsychotiques qui sont surprescrits dans les lieux d'hébergement. Alors qu'ils sont associés à des risques et des complications quand même pas banales. Et donc, il y a beaucoup d'éducation à faire auprès de la première ligne pour revenir à des indications qui sont reconnues, là. Donc, des patients qui ont soit des symptômes psychotiques ou de l'agressivité sévère ou qui se mettent à risque, ou etc. On donne pas de la médication pour des symptômes légers en général.
Oui. Est-ce qu'il y a moyen de préserver la santé mentale des personnes âgées?
Bien, je l'espère.
Et vous y travaillez, bien sûr.
Quotidiennement. C'est sûr que je pense que, bon, quand on regarde d'abord au niveau individuel, moi, je donne toujours des conseils, c'est-à-dire de mener une bonne vie, de bien manger, de bien dormir autant que possible, de maintenir une vie intellectuelle, sociale, stimulante, d'avoir des activités physiques adaptées. On le sait, tout le bénéfice de l'activité physique sur la santé mentale, sur la cognition aussi. D'être vigilant quand on a des antécédents personnels ou familiaux de santé mentale et de consulter si on a des symptômes. Et si possible, il faudrait aussi que le réseau change pour qu'il y ait une prise en charge globale à chaque fois. qu'on évalue les problématiques de la personne âgée à l'urgence, mais de façon globale et non pas juste en traitant un symptôme. Et tout le réseau de soutien aussi est à construire pour briser la solitude de plusieurs aînés,
ouais.
Augmenter les services de maintien à domicile pour diminuer l'épuisement des aidants qui souvent sont seuls à faire face à ça. Donc, je pense qu'il y a différents moyens au niveau tant individuel qu'au niveau de la société ou de notre réseau de santé qui est à promouvoir.
Oui, mais je vous entends, Dr Bruno, et je me dis, autant la santé physique que la santé mentale de nos personnes aînées, c'est une affaire de société, ça nous concerne tous, là, et on doit s'y intéresser maintenant.
Oui. Bien, c'est évident que peut-être qu'on doit se questionner sur qu'est-ce qu'on souhaite comme fin de vie avec une certaine qualité de vie là, pour les gens qui nous ont précédés,
ouais,
qui nous ont
ouais.
guidés. Et je pense que, en fait, le réseau de santé pour les patients âgés est à revoir parce que ça a été un modèle très hospitalo-centriste dans mm-hmm. les dernières années où quelqu'un rentre avec un problème aigu, on le soigne, on le ressort. Mais pour des personnes âgées qui ont plusieurs maladies chroniques, où il faut s'attarder vraiment à toute la globalité du problème, à vérifier s'ils sont capables de retourner à domicile, de monter justement un filet de sécurité quand ils ont des pertes d'autonomie. C'est pas du tout la même approche là, que une intervention purement hospitalière, comme oui. on connaît.
Mais en terminant, est-ce que lorsque c'est possible, le maintien à domicile peut jouer un grand rôle dans le soutien à la santé mentale?
Ben, c'est évident que tout le monde souhaite finir ses jours à domicile autant que possible, puis que tant que c'est quelque chose qui est envisageable, si on peut mettre en place les ressources suffisantes, ça va être bien apprécié.
Ouais.
Maintenant, il y aura toujours des situations où c'est pas possible là, de promouvoir un maintien à domicile parce que les maladies sont trop sévères, nécessitent des interventions nursing ou médicales quotidiennes, parce qu'il y a des troubles de comportement importants, etc. Donc, je pense qu'il faut encore préserver des lieux d'hébergement. Il faut revoir, par contre, les philosophies de soins dans ces hébergements-là, puis d'avoir des approches vraiment adaptées aux clientèles qui s'y retrouvent. Puis de revoir aussi qu'est-ce qu'on veut comme enjeu de fin de vie.
Oui. Et tout ça, c'est complexe. Merci de nous l'avoir bien vulgarisé, en tout cas, du moins, c'est un sujet dont on parle très peu souvent, la gérontopsychiatrie. Vous, Dr Marie-Andrée Bruno, vous êtes gérontopsychiatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, également professeur agrégé au département de psychiatrie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
Bien, merci, ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Miguel Doucet, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Vous êtes ici pour nous présenter la toute première revue de presse sur la santé dans le monde, à savoir des initiatives inspirantes en matière de santé et de science. Et Miguel, vous revenez de Londres. Comment se portent les Londoniens?
Se portent très bien. Et j'ai tellement eu du beau temps. On a toujours l'image d'une ville sous la pluie, brumeuse. Eh bien, c'était le soleil. Et parlant de santé, il y avait une pièce...
Et de Londres.
Et de Londres. Présentement à Londres, il y a Nicole Kidman qui joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle Le Photograph 51, et ça raconte, on parle de science, on parle d'innovation, et c'est une scientifique qui a vraiment existé, donc c'est une biopic, si on peut dire, une biographie, sur Rosalind Franklin, qui est la première scientifique à avoir photographié l'ADN humain. Et ça s'est passé dans la période des années 50, entre 51 et 53. Entre 1951 et 53, et on a voulu... parler de cette femme-là, et je me suis dit...
Qui a laissé des traces, pas simplement d'ADN.
Mais de là, de voir c'est quoi les répercussions et quels sont aujourd'hui les sujets sur lesquels certains scientifiques s'attardent.
Oui.
Entre autres, on a aux États-Unis les supercalculateurs au service pour faire de la recherche pour
la
les
maladies.
La santé
cardiovasculaire, voilà.
Oui, les maladies du cœur. On veut concevoir des prothèses. Et juste pour te donner quelques chiffres comme ça, on parle de 100 000 battements de cœur dans une journée et 2,5 milliards de battements de cœur dans une vie.
C'est mieux d'être une bonne calculatrice.
Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de super calculateurs qui vont justement compter ces battements de cœur-là. Et je ne sais pas à quel âge la personne meurt pour avoir fait 2,5 milliards de battements de cœur dans une vie,
oui.
Mais tout de même, c'est un muscle et on en a besoin.
Oui.
Et c'est chaque battement de cœur-là, bien, on veut justement aider pour les personnes qui ont des maladies cardiaques et créer justement des prothèses. Et c'est surtout la valve, donc à chaque battement, on a comme l'ouverture et la fermeture d'une valve qui fait l'arrivée et le départ du sang à travers le cœur pour permettre ensuite la direction du sang vers les poumons et les autres organes, eh bien, c'est surtout cette fermeture et ouverture-là qui n'est pas toujours précise. Et c'est ça que le supercalculateur veut savoir. Et c'est là que se passe la recherche. Et au-delà de ça aussi, on veut vous reproduire avec un système non humain, si on veut, ces fonctionnements pour arriver à un fonctionnement naturel pour la personne.
Donc, le supercalculateur peut aider à créer des prothèses pour aider la personne qui a un souci en santé cardiovasculaire.
Bien, à amener une précision, justement, dans la prothèse.
Ah, d'accord.
Dans la circulation. On parle aussi, par exemple, du clapet qui constitue la valve mitrale qui sépare l'oreillette gauche du ventricule gauche qui soumet à des tensions et des étirements. Et parfois, les battements cardiaques, s'il y a une déformation du cœur, n'est pas toujours exacte. Alors, c'est ça aussi que le supercalculateur veut savoir et les recherches se font. C'est nécessaire aussi d'améliorer la modélisation et le fonctionnement de la valve entier. Et ces supercalculateurs-là, c'est où? Bien, c'est au Texas Advanced Computer Center et c'est sous l'équipe du professeur Michael Sack. Et on veut essayer de justement trouver les déformations et la géométrie de la valve mitrale. Mais au-dessus aussi, on parle que 280 000 personnes dans le monde qui subissent une opération chirurgicale qui consiste à poser une valve artificielle.
Ah ouais.
Et il faut aussi être en mesure de comprendre que ces valves-là ou ces opérations-là, la durée de vie n'est pas très longue. On parle de 3 à 5 ans en moyenne. Et ce qu'on veut, c'est amener
Si la valve est plus précise, j'imagine que l'espérance de vie sera allongée.
Exact. Ah, et voilà. Aussi, pour justement l'opération, les effets à long terme, on veut amener une durée plus longue. Alors, c'est vraiment le but de cette recherche-là, vue avec ces supercalculateurs.
Du côté de nos voisins du Sud. Maintenant, Miguel, vous voulez nous parler de la biomimétisme. Qu'est-ce que c'est que ça?
Biomimétisme. Eh bien, on parle depuis une dizaine d'années. C'est une chercheure, Janine Beyus, qui s'intéresse à cette science de la biomimétisme. Mimer, hein, on veut recréer. Et c'est une discipline scientifique qui est tout nouveau, c'est très nouveau. Et on veut s'inspirer des modèles présents dans la nature. Donc, tout ce qui a été produit, eh bien, on peut peut-être, nous, s'en inspirer pour certains problèmes ou défis que nous, les humains, on a. Alors, comme elle dit, c'est de trouver des stratégies pour résoudre des problèmes humains. Et elle, j'aime bien, je vais la citer, elle dit que nous ne sommes pas les premiers à avoir construit des choses comme complexes comme des habitats ou à créer des parois étanches. Alors, il y a des animaux.
On peut s'inspirer des animaux. Voilà, je pensais aux castors, entre autres choses, avec leur barrage, c'est extrêmement ingénieux. Donc, de s'inspirer de la nature des animaux pour, enfin, nous aider, nous, les humains. Est-ce qu'il y a des exemples concrets,
Miguel?
Tout
à fait. On parle des requins. Les requins sont arrivés il y a tellement longtemps. On parle même de l'ère du dinosaure. Il y avait des requins dans les eaux. On parle aussi qu'on s'inspire par rapport à la peau des requins qui est formée de denticules, une forme de l'agencement qui empêche les bactéries, les parasites de pouvoir se fixer en créant une surface instable.
Plus étanche,
exactement.
Ouais.
Puis c'est un répulsif bactérien naturel. Alors, ces chercheurs-là ont idée de copier pour l'adapter. Là, je me suis dit, vont-tu nous faire quelque chose sur notre peau? Non, c'est pas sur nous. C'est plus sur les murs des hôpitaux. Et puis, si on enduit la même chose, on peut réduire à 80 % la prolifération des bactéries. On parle même de la E. coli.
Bien oui, bien oui. Et les personnes âgées, notamment, qui sont hospitalisées ou d'autres personnes qui ont un système immunitaire plus faible pourraient vraiment être gagnants là, lors de ces visites à l'hôpital.
Un autre exemple, la tardigrade. Voilà, je viens de gagner une coupe de points dans un Scrabble. Mais c'est juste pour vous dire, c'est un petit animal qui est un demi-millimètre d'épaisseur. Juste à voir la photo, ça a l'air d'un pou, mais bon, c'est vraiment tout petit. Eh bien, eux, ils peuvent résister à un environnement défiant l'imaginaire. Alors, ils peuvent vivre dans des conditions d'anhydrobiose. Là, j'ai l'air vraiment intelligent, je vais vous dire. L'anhydrobiose, ça veut dire vivre sans eau. Alors, ça implique que leur organisme peut se dessécher littéralement pour former et ralentir leur métabolisme. Alors, ce qui arrive, c'est qu'ils remplacent l'eau de leur corps par un sucre qui leur permet de maintenir l'intégrité des cellules. Mm-hmm. Alors, de cette façon-là, on veut s'inspirer de ce petit animal-là. Pourquoi? Parce qu'on veut garder pour les vaccins.
OK.
Parce qu'eux peuvent se conserver et résister à des températures, on parle de moins 253 Celsius, donc proche du zéro absolu. Eh bien, si on peut faire la même chose avec nos vaccins, qui ont recours souvent à être réfrigérés, alors c'est une façon de pouvoir faire avancer. Souvent, on pense à nous, mais des fois, c'est plus à notre service.
Oui, souvent, on pense que l'humain a les meilleures idées et la race supérieure. Et pourtant, les animaux, tout ce qui nous entoure, la nature peut être extrêmement... Tout ça est extrêmement inspirant. Maintenant, Miguel, j'aimerais beaucoup que vous me parliez de l'application Bicyclaire qui vient ici de Montréal, des chercheurs de McGill qui peuvent rendre un sérieux coup de pouce aux cyclistes, parce qu'il y a encore des gens qui font du vélo.
C'est une application, oui, qui est d'une équipe de chercheurs de l'Université McGill, qui est dirigée par Marianne Adzopoulos. Et cette application-là, c'est nous permettre de trouver le trajet le plus court, le moins pollué et le plus calme. Alors, vous entrez les données de votre départ et celles de votre arrivée et vous pouvez voir et visualiser sur cette application un trajet plus court en bleu, un trajet moins pollué en vert et un trajet plus calme en rouge. Donc, plus calme insinue qu'il y a moins de voitures.
Voilà.
Exactement. Mmh. Et on peut même visualiser la concentration d'oxyde d'azote sur cette application-là. Et on parle même que l'application sera maintenant aussi à Toronto. Il y a d'autres équipes de
chercheurs. Donc, nos chercheurs ici ont inspiré d'autres chercheurs ailleurs au Canada. Bicyclaire sur les téléphones intelligents?
Entre autres.
Ah, bon, parce que je disais, on fait encore du vélo, même si c'est l'automne.
Il fait beau, on profite des belles journées. En plus, c'en est une très belle aujourd'hui.
Certainement. Miguel Doucet, merci beaucoup pour cette revue de presse de la santé dans le monde. On se retrouve dans un mois parce que ce sera une présence mensuelle.
Merci, Marianne.
Mathieu Tessier à la mise en onde, qui fait du vélo et qui pourrait utiliser Bicyclaire. Marianne Paquette au micro, Christiane Campagna à la recherche. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain, 14h. Soyez là et portez-vous bien d'ici là. Bye-bye.